1 Corinthiens chapitre 8. Verset 2, un verset qu'on connaît bien, et c'est en introduction pour vous dire que si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, déjà de la grâce de Dieu. On a fait un peu un tour dans la parole de Dieu sur différents versets de la grâce de Dieu. Mais une chose qui est ressortie, c'est que la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, verset 14, verset 16, il est la grâce de Dieu, il est la vérité et la grâce, il est la grâce et la vérité. Et donc, on sait que Jésus-Christ, il est venu pour nous révéler le Père, il est venu pour nous donner une pleine révélation de qui il est, et on sait que Dieu, il est infini, n'est-ce pas ? Donc, la dimension de la grâce nous dépasse complètement, et la compréhension de la grâce nous dépasse. Même si, personnellement, ça fait 35 ans que j'entends parler de la grâce de Dieu, à peu près, je réalise que je ne connais pas la grâce de Dieu et que j'ai encore besoin de découvrir la grâce de Dieu et de grandir dans la grâce de Dieu, ce à quoi Pierre nous encourage en 2 Pierre chapitre 3, 18, de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est un thème qu'on connaît, mais on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'on va s'y arrêter encore un petit peu pendant ces prochains cours, je pense. Et on prions que le Seigneur nous rafraîchisse dans la grâce de Dieu. Parce que le message, on pourrait peut-être le dire, mais quelquefois, derrière les mots, on entend les choses, mais on ne les entend pas, enfin, on ne les reçoit pas. Vous comprenez ? On sait que Dieu nous aime, mais bien sûr que Dieu nous aime. Si je vous demande, est-ce que Dieu vous aime ? Tout le monde sait que Dieu... bien sûr, Dieu est amour, Dieu nous aime. Non, mais attends. Mais moi, personnellement, avec ce que j'ai fait aujourd'hui, avec ce que j'ai pensé il y a 10 minutes, avec tout ce que je lui ai fait depuis que je suis chrétien, et avant que je sois chrétien ? Est-ce qu'il m'aime vraiment ? Est-ce que c'est possible qu'il m'aime vraiment ? Est-ce que c'est possible que je fasse sa joie, comme on a un chant. Ce qui m'émerveille le plus, c'est que je fasse ta joie. Est-ce qu'on le croit vraiment ? Est-ce qu'on le reçoit vraiment ? Ou est-ce qu'on est encore dans cette réalité que oui, on a une chair, oui, on pêche encore, oui, on déçoit encore le Seigneur, on se déçoit nous-mêmes, on déçoit les autres, on est déçu des autres. Et comment la grâce de Dieu... Alors, pourquoi la grâce de Dieu ? D'abord parce que c'est la nature de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas nous offrir autre chose que ce qu'il est. Il n'allait pas se déguiser, c'est la grâce de Dieu, c'est qui il est. Et la création, quelque part, et toute la situation qui est arrivée avec l'homme, avec le péché, avec la chute, avec la rédemption, avec le sacrifice de Christ, c'était aussi pour que les anges et la création tout entière puissent découvrir la grâce de Dieu. C'est-à-dire que, imaginons qu'on soit dans un monde parfait, où il n'y a pas de péché, où il n'y a pas de problème, où on est dans la présence de Dieu, on est dans le jardin d'Éden. Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est bon, mais on ne sait pas qu'il est gracieux. On ne sait pas que on sait pas la grandeur de sa grâce. Et pasteur Michel a prêché sur dans Romains chapitre 8, on connaît ce verset, Romains chapitre 5, pardon, où il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et j'ai aimé ce qui... Bon, toujours, pasteur Michel est formidable, mais... il donnait cette image que... Adam pêche. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Jésus ne vient pas ? Il meurt sur la croix, il paye pour le péché d'Adam et Ève. Et voilà. Tout le monde voit la grâce de Dieu. Je veux dire, il méritait d'être... Et lui, il meurt à la place, il ressuscite. Il y a eu des péchés d'Adam et de Ève, au moins un. Peut-être d'autres après. Pourquoi il a attendu si longtemps ? Pourquoi il a attendu tant de péchés ? parce que ça s'est accumulé. Juste après, même leur propre fils qui va tuer Caïn, qui tue son propre frère. Et c'est que le début. Tellement il y en a eu qu'il a été obligé d'envoyer le déluge et juste sauver Noé avec sa famille. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 6 que Dieu a vu que la pensée des hommes se tournait vers le mal tout le temps. Et après Noé, on va dire, bon, maintenant, allez, on repart sur des bonnes bases, ils vont moins faire de péché. Il choisit un peuple, et à cela. Et quand on voit comment ça commence, rien qu'on voit comment ça commence, Abraham aussi qui fait des erreurs, Isaac aussi qui fait les mêmes erreurs que son père, d'ailleurs, Jacob, c'est le pompon, ses fils qui trahissent leur propre frère. Enfin, je veux dire, nous, qui sommes imparfaits, qui sommes noyés dans le péché, qui sommes sous la domination du péché, enfin, je dirais, on est sous le prince de ce monde qui est le diable. Donc, on est dans un monde de péché. On a une chair en nous qui est péché. Maintenant, on a été racheté, on est sorti de ce monde-là. Mais on a encore une chair. On est encore lié avec ça. Nous qui sommes là, on se dit pétard. C'est beaucoup quand même. Mais imaginez un Dieu trois fois saint qui ne peut pas voir le péché, qui ne peut pas supporter le péché, qui ne peut pas. Vous imaginez? La grandeur de la grâce de Dieu depuis le temps. À nous, on aurait fait une, deux, trois, allez, quatre générations. Et là, on est à des dizaines et des dizaines et des dizaines et des. Alors après, de combien de péchés? Vous imaginez le nombre de péchés par être humain et le nombre d'êtres humains qui a existé depuis. Donc c'est juste pour montrer la patience de Dieu, la grandeur de la grâce de Dieu. Et nous, on est souvent découragés parce que le péché nous décourage, n'est-ce pas? On voudrait ne plus pécher. Et j'aimerais vous dire que tant qu'on sera là, tant qu'on sera dans cette tente. Voilà, on sera encore, on va encore commettre des péchés. Et c'est pas qu'on, c'est qu'il y a une loi. C'est Paul qui explique ça. Pourtant, s'il y a un des hommes dans la parole de Dieu, un des apôtres, un des exemples, un des géants de la foi qui a souffert, qui a accepté, qui a prêché Christ, le message de la grâce, le message de l'œuvre accomplie, et qui a été missionnaire, qui a évangélisé, qui a risquer sa vie, si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, tout ce qu'il a traversé, il a accepté de traverser pour Jésus-Christ, de souffrir pour Christ. Ben, si vous lisez Romains chapitre 7, il arrive à la fin de Romains 7, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de mort. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce qu'il explique qu'on est piégé, on est dans le péché. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs Paul dira, et c'est même Dieu qui va dire à Paul dans Corinthiens chapitre 12, il va dire « Ma grâce te suffit ». Et j'aimerais vous dire que on tombe. On échoue, on n'est pas à la hauteur, on dérape, on est souvent lâche, on est souvent, voilà, on n'est pas, et on sera par nous-mêmes jamais à la hauteur. Mais on peut recevoir la grâce de Dieu, on peut grandir dans la grâce de Dieu, on peut accepter la grâce de Dieu. Et le titre peut-être ce soir, c'est des termes juridiques employés dans le, alors je ne suis pas un spécialiste, mais qu'on a un petit peu employé dans la vie économique des entreprises, ça s'appelle la liquidation ou le redressement judiciaire. Et en fait, c'est quand une société a des problèmes financiers, qu'elle n'arrive plus à payer ses créanciers, que voilà, il y a deux solutions. la faillite, ça s'appelle la liquidation, ou alors il y a des problèmes financiers, mais la société est peut-être viable et on peut peut-être arriver à redresser la barre, à travailler dur, à prendre des décisions, à limiter la casse, à relancer la machine et à rendre Et à ce moment-là, ça s'appelle le redressement judiciaire. Et pourquoi la grâce de Dieu ? On l'a expliqué, c'est la nature de Dieu. Et parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour nous. On est pécheurs, on est désobéissants à Dieu, le péché est en nous. Et aucune. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas payer pour notre péché. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu, c'est la mort éternelle. Donc on était tous condamnés. Et donc il fallait trouver un moyen pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous offrir un salut. Donc, pour ça, on le comprend bien que la grâce pour notre salut, on connaît les versets dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 8, qui nous disent « Nous étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, et c'est Dieu, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Là, c'est entre parenthèses, on reviendra peut-être sur ce verset. Et au verset 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc le salut, ces versets sont importants de comprendre que le salut n'est pas... Parce que dans le christianisme, malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ça. D'accord ? Nous faisons partie des privilégiés qui ont compris que le salut, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que c'est parce que le sang de Christ a coulé, parce que Christ est mort à ma place, parce qu'il a pris la punition à ma place, parce qu'il est mort à ma place, qu'il a pris mon péché et qu'il m'a donné sa justice, que je peux être sauvé, que je peux être pardonné, que je suis devenu une nouvelle création, la Bible dit, de Corinthiens 5, 17. Et le moyen de recevoir ce salut, ce n'est pas de faire quelque chose, mais c'est de croire. De croire que je suis pécheur et que le salut est en Jésus-Christ seul. La croix de Christ est le seul moyen pour être réconcilié avec Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, verset 20, il a fait la paix par le sang de sa croix. C'est le seul moyen. Acte 15, 11, Paul le dit au tout début de l'Église, il dit « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. » De la même manière que, et là, il s'adressait aux gentils qui, pour les Juifs, c'était incompréhensible. Enfin, c'était une grande surprise, parce que les Juifs, ils avaient pris Dieu que pour eux, d'accord. Et que le centurion romain qu'il avait fait quémander le Saint-Esprit des centureux et qu'ils se convertissent comme eux, d'accord. Ça a été la grande surprise, hein. Et donc en Actes chapitre 15, c'est le premier grand concile de l'Église où Pierre, qui est un des apôtres, le chef des apôtres, dit c'est par la grâce qu'on est sauvés, et eux, pareil. Et il n'y a plus de mur entre les Juifs et non-Juifs. Voilà, l'Église, c'est pas, il y a les Juifs d'un côté. Alors là, à l'époque, c'était le cas, mais après, voilà, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'esclaves, de libres. Donc, on sait, nous savons que nous sommes pécheurs et que personne aujourd'hui, ça nous on l'a compris, beaucoup de gens dans le christianisme n'ont pas compris encore, mais nous savons que nous sommes pécheurs et que personne ne peut se rendre juste devant Dieu par ses propres œuvres ou ses efforts. La Bible dit dans Galates 2,16, il dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié par la foi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. » Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et malheureusement, pour revenir au terme que j'ai employé tout à l'heure, beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne sous une forme de redressement judiciaire. Ils n'ont pas accepté la faillite. Ils n'ont pas accepté la liquidation. Ils essayent, ils acceptent d'être sauvés par grâce, mais maintenant, il faut quand même redresser la barre. Et il faut se mettre au travail. Et il faut se changer, il faut s'améliorer, il faut faire un travail sur soi. Ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas l'évangile de grâce. C'est un évangile de prospérité, c'est un évangile où l'homme va avoir des mérites parce que justement il peut œuvrer. C'est un évangile de légalisme. Et l'homme est friand de ça. Parce que le légalisme, quelque part, ça attise l'orgueil en nous. Hein ? Mais ce n'est pas la vérité et ce n'est pas la grâce, bien évidemment. Donc, on a bien compris qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour notre salut, pour payer pour nos péchés. Mais on a du mal à vivre ou à expérimenter le fait qu'on a... C'est la grâce de Dieu aussi qui va continuer à nous amener. Ce n'est pas maintenant que tu es sauvé par grâce et puis bon, ok, il a tout payé, mais maintenant, oh, réveille-toi, il a fait de toi une nouvelle création, il t'a donné le Saint-Esprit. Maintenant, au boulot. Maintenant, il faut que tu te mettes un peu... Alors, bien sûr, la Bible nous dit de faire des efforts. Mais personne ne peut se changer. Personne ne peut transformer son cœur tordu et malade. Dans la chair, il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu. Tous nos efforts sont vains. Et là, le problème, en réalité, c'est est-ce qu'on a vraiment réalisé qu'on est pécheur ? Parce que quand on est sous le redressement judiciaire, on pense qu'on peut faire encore des choses, qu'on peut sauver les meubles, n'est-ce pas ? On sait qu'on est en mauvais état, mais peut-être qu'il y a encore des choses à faire. Et quand on comprend la grâce de Dieu, on comprend qu'il n'y a rien à faire. Comprenez ça ? Que c'est la faillite, c'est la liquidation totale, et que maintenant, ce qu'on a besoin, c'est que la grâce de Dieu œuvre dans moi. La parole de sa grâce. Le Seigneur qui m'a sauvé, qui a payé pour mes péchés, c'est lui qui commence une œuvre en moi, et c'est lui qui va l'achever. Donc, dans Romains chapitre 3, je vais vous lire quelques versets. Paul, qui est en train de montrer qu'on est tous pécheurs. Le juif, celui qui se croit juste propre, l'humaniste, tout le monde est pécheur. Romains chapitre 3, verset 9, il dit quoi ? Donc sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a pas un seul juste. Alors, oui, mais quand même, des gens bien, pas injustes. D'ailleurs, quand on imagine que, je ne sais plus la proportion exactement, si c'est la moitié ou les deux tiers de la Bible ont été écrits par trois meurtriers, entre Moïse, David et Paul. D'accord ? Ça, c'est la grâce de Dieu. Des meurtriers, des vrais meurtriers. Enfin, David... Oui, il a tué des hommes dans la guerre, mais il a fait tuer quelqu'un. Donc, c'était pas lui qui tenait le... C'est lui qui a ordonné. Moïse, on sait qu'il a tué l'Égyptien. Et David, il a fait tuer... Uri. Et Paul, il a fait emprisonner les chrétiens, il a fait tuer des chrétiens. Et peut-être que... Vous imaginez la culpabilité qu'il pouvait avoir quand juste le diable essayait de ramener peut-être des visages, des cris, des situations où il avait été témoin. Il avait été acteur, il avait été même l'initiateur. Hein. Il partait à Damas un voyage de vigiliature. Hein. Et il allait pour attraper et tuer des chrétiens, les enfermer. Hein. Donc s'il peut être l'apôtre de la grâce, c'est parce que il lui dit « Je suis le premier de tous les pécheurs ». Mais quelque part, on devrait tous dire ça. Comprendre. Que nul, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent et nul ne cherche Dieu. Qu'on ne soit pas intelligent, qu'on en connaît des grands cerveaux quand même. Mais des grands cerveaux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, parmi les hommes, ça nous impressionne, mais est-ce que ça impressionne Dieu ? Nul n'est intelligent. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Les psaumes. Hein. Je crois que c'est le psaume 51. Non, pas 51. Psaume 14, peut-être. Et voilà. Et on est dans un monde insensé aujourd'hui. Pourquoi il va mal ? Parce qu'on a perdu le bon sens, tout simplement. Nul ne cherche Dieu. Et j'aimerais vous dire que dans notre chair, on ne cherche pas Dieu. On a 20 ans, 30 ans, 50 ans de conversion, on est enfant de Dieu, on a connu le Seigneur dans une certaine mesure, mais dans la chair, on ne cherche pas Dieu. C'est lui qui est venu, c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui, c'est la grâce de Dieu encore, qui nous a sauvés, c'est lui qui est venu le premier, c'est lui qui nous a aimés le premier, et qui continue encore. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette grâce pour continuer d'être sauvés journalièrement. Ce n'est pas dire qu'on va perdre notre salut, mais sauvés de la vanité, sauvés d'une vie sans Dieu, d'une vie juste centrée sur nous, sur nos besoins, sur nos problèmes, sur nos solutions, sur des choses humaines, terrestres. Alors, on vit sur la terre, on vit entre humains. Mais est-ce que la grâce de Dieu, c'est que Dieu peut descendre? Et c'est ça l'Église, c'est Dieu au milieu de nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, la communion fraternelle, où commence l'amour de Dieu dans notre cœur, on le partage les uns avec les autres. Et c'est là qu'on révèle Christ. C'est là qu'il y a un réveil qui se passe. Donc, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Je veux dire, quand tu lis ça, tu ne peux pas dire, bon, on va faire un redressement judiciaire. On va essayer d'arranger l'affaire. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Et pour être sûr que ce soit bien clair, pas même un seul, il rajoute. Donc, ne soyez pas désespérés quand vous êtes dans la chair de ne pas être à la hauteur. Sinon, ça veut dire que Dieu est en train de nous dire des histoires. Et combien de fois on est découragé et abattu parce que « Oh, je suis toujours pécheur !» C'est vrai. Et quelle est la solution vis-à-vis de ça? Ben, c'est la croix. C'est la faillite. C'est la liquidation. Adam, le vieil Adam, le premier Adam... C'est la croix, il n'y a pas d'essayer de arranger, restaurer, améliorer. Et très souvent, le christianisme, nos efforts, des fois, c'est juste d'essayer de rendre Adam présentable et qu'il sente bon et qu'il soit bien habillé et qu'il fasse croire aux autres que tout va bien. Et le pire, c'est qu'il arrive même à se faire croire à lui que ça va. C'est le pharisianisme, c'est le légaliste. Il dit, vous connaissez cette histoire du pharisien et du publicain, en Luc 18, il monte au temple et puis... Et puis le pharisien dit, oh, merci Seigneur que je ne suis pas comme lui. Moi je fais ceci, moi je fais cela. Il s'y croit. Mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est ce que le diable pourrait faire. Parce qu'il n'a pas besoin de la grâce de Dieu, lui, il y arrive. N'est-ce pas? Et en fait, Paul le dira dans Galates chapitre 5, il est déchu de la grâce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de grâce pour lui, mais ça veut dire que la grâce qui est disponible pour lui aujourd'hui, elle ne peut pas agir parce qu'il est dans sa justice propre. Lui, il fait bien. Et c'est pour ça que Dieu permet qu'il y ait des échardes, des faiblesses, qu'on se trompe encore, qu'on tombe encore. Pour justement réaliser que Paul, il a eu une révélation, il le dit lui-même, tellement excellente qu'il aurait pu avoir la grosse tête, lui. Mais Dieu a su le garder humble, le garder petit, dépendant de Dieu, et à chaque instant, besoin de la grâce de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire que si on ne vit plus en étant conscient de la grâce, de notre besoin de la grâce de Dieu à chaque instant de notre vie, on est en train de glisser sans s'en rendre compte sur ce chemin de l'hypocrisie. Et de penser que la loi, parce que Dieu nous a donné la loi. Et ce qui était intéressant, c'est que Pasteur Michel, encore dans Romains chapitre 5, il avait utilisé versets 16 et 17, où il parlait de l'offense et où la grâce est venue. Hein. Je veux vous le lire, 16 et 17. « Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, et c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est ce que Dieu veut pour nos vies, c'est qu'on règne par Jésus-Christ, lui seul. Et comment ? Par l'abondance de la grâce. Et il expliquait que, en fait, Adam, il n'avait qu'une seule chose à ne pas faire. D'accord ? Il n'avait pas encore la connaissance de toute la loi de Dieu. Hein ? Et il donnait l'image du tennis. Vous savez, on connaissait un peu le tennis, les règles. Il ne faut pas que la balle, il faut qu'elle tombe entre les lignes. D'accord ? Et en fait, Adam, il avait juste qu'à faire passer la balle. Il ne faut pas qu'elle sorte de la ligne, elle dépasse la ligne. Donc il n'y avait qu'une seule chose à faire. D'accord ? Et si la balle dépasse la ligne, c'est fini. Lui, il est mort, et toute sa descendance, et c'est fini. Le péché est entré, c'est la catastrophe. D'accord ? Et c'est ce qui est arrivé. Et après, le peuple juif, un peu plus tard, lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils demandent à Dieu, « Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse, donne-nous la loi, et on fera ce que tu nous diras. Pas de problème. » Et là, quand Dieu révèle, donne sa loi, ben, il y a plein d'autres règles. D'accord ? Alors, il donne des exemples de posture, de machin, d'attitude, de la façon de tenir la raquette. Enfin, je veux dire, et là, tu multiplies les règles. Et en fait, si déjà à une règle, il n'est pas arrivé, vous imaginez si tu en rajoutes. Et ces règles sont justes, elles sont bonnes, la loi est bonne, je veux dire, elle est divine, elle est de Dieu. Mais nous, on en est incapables. Déjà, une, on a passé à travers. Alors, si on nous donne tout le... Et juste de penser que par la loi, on peut arriver, et c'est l'orgueil de l'homme, hein, à être accepté par Dieu, ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise. Mais la loi, par la loi... En fait, Paul l'explique, la loi, c'est comme un pédagogue. C'est-à-dire, c'était un peu le serviteur qui a mené l'enfant à l'école. Au précepteur. D'accord ? Et en fait, la loi, c'était juste pour nous montrer. Et les gars, un, vous n'y arrivez pas, mais si je vous donne tout, vous allez voir que vous n'y arrivez pas du tout. D'accord ? Donc, d'essayer, parce que les gens, le chrétien, je dirais, plein de chrétiens pensent que ben, maintenant, moi, je n'ai pas trop fait de péché, ou j'essaye de ne pas trop faire le péché, j'essaye d'obéir aux 10 commandements, donc ça va aller. Mais c'est ne pas connaître notre état de pécheur et la sainteté de la loi et notre incapacité totale. Donc, je veux dire, s'il n'y a pas la grâce, on n'est pas sauvé, mais s'il n'y a pas la grâce, on ne peut pas être en communion avec Dieu. Sur quelle base ? Sur la base, j'ai assez bien fait aujourd'hui, donc je peux me présenter devant Dieu. C'est souvent comme ça qu'on pense. Oh, je passe pas une bonne saison en ce moment, je viens pas trop à l'église parce que ma vie, ça va pas trop. Mais c'est justement là qu'il faut venir à l'église. Parce que c'est là qu'on va en recevoir la grâce. Et la grâce, c'est le seul moyen. La loi, en fait, elle aiguise, elle attise le péché. D'ailleurs, on a connu le péché que par la loi. C'est Paul qui dit ça en Romains chapitre 7. Verset 6. Si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas », on n'aurait pas su qu'il fallait pas convoiter. Dès qu'elle a dit « il faut pas convoiter », nous, on a eu envie de convoiter. Tu dis ça à un enfant, il ne faut pas toucher, tu lui donnes envie de toucher. N'est-ce pas ? Alors là, c'est notre nature. Et Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 15, c'est que, en fait, la mort, comment il dit ? Pas tort dans les Écritures. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, plus tu connais la loi, et plus tu pêches. Donc, si tu veux essayer de rencontrer Dieu par la loi, la seule chose que ça va faire de toi, c'est un meilleur hypocrite. C'est tout. C'est tout ce que ça va faire. Et donc, évidemment, ça ne va pas t'approcher de Dieu. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est en liquidation, la bonne nouvelle de la liquidation, c'est qu'on a échoué, ok, on a raté tout, mais on n'a plus de dette. Quand tu es sous le redressement judiciaire, il faut travailler dur pour continuer à redresser la barre, à payer les impayés, à tous les créditeurs, tous ceux que tu n'avais pas honoré tes dettes, tu en as plein, il faut tout travailler. Et ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Vous comprenez ? n'est pas la grâce de Dieu. Parce que la seule chose, la loi ne nous pousse pas à ne pas pécher. Justement, elle nous donne envie de pécher. La seule chose qui nous délivre du péché, c'est la grâce. Dans Tite. Hein ? La grâce, c'est ce qui nous pousse à renoncer à l'impiété. C'est Tite 2:13. De 12, elle nous enseigne, donc la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce de Dieu, c'est elle qui nous change, pas la loi, pas le commandement. Le commandement nous accuse. La grâce de Dieu. Et pour revenir à Romains chapitre 3, il dit au verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La justice de Dieu par la foi, au verset 22, en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. La seule façon d'être justifié devant Dieu, c'est par la foi. Et d'ailleurs, avant même que la loi ait été donnée, Abraham qui a cru, en Genèse, hein, il crut à Dieu et ça lui fut imputé à justice. D'accord ? Et c'est la seule manière, c'est de croire Dieu. C'est de croire la grâce de Dieu. C'est de recevoir la grâce de Dieu. C'est de vivre par la grâce de Dieu. Donc le légalisme ne nous rend pas plus saints, mais juste plus hypocrites. Hein, je l'ai dit tout à l'heure un peu différemment, mais voilà, on peut la sainteté et la sanctification, donc la vie qui est ici-bas, la vie qu'on vit ici, comment elle va être à l'image de ce que Dieu désire pour nous? Bien sûr que Dieu veut pas qu'on continue dans le péché. Il sait qu'on va tomber. Et on a une provision de grâce extraordinaire. Et tout à l'heure, je disais dans donner l'illustration de Pasteur Michel, c'est que ça fait des milliards et des milliards de péchés. Donc la provision de grâce, elle est suffisante. Pas dire, ah ben, il n'y en a plus là de grâce. Dieu, il en a. On l'a fatigué tellement. Oh, non, on ne va pas le fatiguer. Enfin, je veux dire, il est triste, il est attristé, bien évidemment. Mais sa grâce est toujours là, capable de nous restaurer. Il est comme le père dans l'histoire du fils prodigue, dans Luc 15. Il attend de nous faire grâce. Hein, dans Ésaïe 30, verset 18 aussi, il attend. Il est en embuscade pour nous faire grâce. Si simplement nous, on arrête d'essayer de faire par nous-mêmes. Parce que tant que on essaye, hein, c'était le problème avec des Galates qui voulaient garder un peu la loi, un peu la grâce, un peu la loi. Non, c'est la grâce ou la loi. D'accord ? La loi, on sait que ça ne nous amène nulle part, donc c'est que la grâce qui reste, en réalité. Mais ils se mélangent là, d'accord ? Ou ils voulaient rajouter la circoncision, en disant, oui, non, mais quand même, il faut se faire circoncire. Il dit, si vous voulez ça, vous êtes déchus de la grâce. Hein ? Parce que soit c'est les œuvres, soit c'est la grâce. Ce n'est pas un peu des deux. Et nous, on voudrait la grâce pour le salut, mais après, il faut un peu des deux. Erreur. Tragique. Et d'ailleurs, Paul, quand il écrit aux Galates, c'est avec eux qu'il est le plus dur. Et pourtant, de l'extérieur, c'était une église, ils étaient carrés, ils étaient la loi et tout ça, ils faisaient tout bien. Alors que les Corinthiens, c'était le bazar dans l'église de Corinthe. D'accord ? Et il parle, voilà. Mais encore une fois, et c'est le travail du diable de nous amener dans ce système de loi, de légalisme, de justice propre, d'essayer de s'améliorer, d'essayer de se rendre présentable, J'aimerais vous dire, vous y arriverez. Et c'est épuisant de vivre comme ça. C'est tout le temps dans la dette, tout le temps dans la culpabilité, tout le temps dans la condamnation, tout le temps, il faut que je fasse ça. Et la motivation, ce n'est pas l'amour. La motivation, c'est, il faut que je paye. Alors pourquoi Christ est mort à la croix ? Et quand on commence à saisir la grâce et à recevoir la grâce et à vivre la grâce, eh bien, ça nous donne une capacité de répondre à l'amour de Dieu. Et parce qu'on aime Dieu, oui, j'aimerais vous dire, oui, on va avoir la victoire sur le péché. Mais elle vient par la grâce de Dieu. Elle ne vient pas par un effort de moi-même. Elle vient parce que la croix, l'œuvre de la croix, m'a libéré de l'esclavage du péché. La nouvelle création que je suis devenu. Je ne suis plus obligé de pécher aujourd'hui. Parce que je suis une nouvelle création. Et si je vis dans cette nouvelle création, je ne pêche plus. La réalité, c'est que je vis encore dans l'ancienne création, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est l'apôtre Jean qui dit ça en Jean chapitre 1, verset 7, il dit que si nous sommes en communion avec le Seigneur, donc on marche avec le Seigneur, on marche par la foi, on écoute la parole de Dieu, on essaye d'être obéissant à ce que Dieu nous demande, au commandement de Dieu. Et quand on pêche, parce qu'on pêche encore, il dit le sang de Christ, voilà, le sang de Christ purifie de tout péché. Et quand on a péché, d'ailleurs, la seule chose qu'on a à faire, et c'est étonnant, hein, parce que dans la conception religieuse naturelle de l'homme, je pense par exemple à quelqu'un dans l'Église catholique, il dit ben, s'il a fait un péché, il faut qu'il fasse pénitence, ou il faut qu'il fasse. Il y a cette idée, il faut qu'il fasse une bonne œuvre, il faut qu'il rachète ce péché qu'il a fait. C'est comme si le sang de Christ n'était pas suffisant. Mais nous, c'est l'esprit religieux qui est comme ça. Il dit, parce que là tu as fait des efforts, donc tu le mérites maintenant. Ben, si c'est le mérite, ce n'est plus la grâce déjà. Hein. J'ai perdu la pensée de ce que je voulais vous dire, mais ça va venir. Ah. J'ai perdu le fil. Vous n'avez pas vu le fil ? Bon, ça reviendra peut-être. Zut, c'était bien, ça me semblait super. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la grâce de Dieu, on en a besoin tous les jours. Tous les jours. Et on a besoin de grandir dans la grâce de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire que on va réaliser que oui, on est toujours pécheur. Oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai retrouvé le fil. C'est que l'homme religieux, lui, va essayer de payer en faisant une bonne œuvre. D'accord ? En faisant quelque chose. Mais ce qui est étonnant, c'est que sous la loi, quand le peuple juif était sous la loi, quand quelqu'un avait péché, la loi ne lui demandait... Dieu a donné la loi et les sacrifices. Il n'a pas dit, si vous péchez, maintenant, il faut faire une bonne œuvre. Et si vous péchez, vous devez aller au temple et offrir un sacrifice et tuer un innocent pour payer pour votre péché. D'où ça vient, cette histoire de bonne œuvre, là ? Et nous, quand on pêche, aujourd'hui, selon ce que Dieu demande, parce qu'on va pêcher, la seule chose qu'on ait à faire, c'est 1 Jean chapitre 1, verset 9. C'est de confesser notre péché, de reconnaître qu'on a péché. Pas de se lamenter pendant des milliers d'années ou d'heures ou de secondes sur notre sort en disant « je suis un pécheur ». Et c'est juste de le confesser. Et Dieu est fidèle et juste de nous pardonner, de nous purifier. Pourquoi ? Parce que on présente quoi ? Le sacrifice de Jésus-Christ, qui, lui, efface vraiment le péché. Les animaux, ça couvrait, jusqu'à ce que Jésus-Christ paye vraiment pour effacer les péchés. D'accord ? Donc cette idée de bonnes œuvres, c'est des œuvres mortes, des œuvres de séduction, des tromperies, qui font que les gens perdent leur temps à essayer de plaire à Dieu au lieu de recevoir la grâce de Dieu. Et de se laisser aimer par Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'œuvre de Dieu va se faire. Hein, parce que ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4, 3, c'est notre sanctification. D'accord ? Donc, Dieu veut que la grâce de Dieu continue. Elle nous a sauvés, elle nous a établis, d'ailleurs. Ça, on voit ça dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2, au verset 6. Il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. En position, mes amis. Ça, c'est très important de comprendre ça. Je vais terminer avec ça. C'est que on est pécheur, mais devant Dieu, dans notre position devant Dieu, on est couvert par le sang de Christ. Totalement couvert, et on est assis en position dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, avec Jésus-Christ. D'accord ? Ça, c'est notre position. Dans la réalité, on tombe encore. Jusqu'à ce qu'on soit, tant qu'on sera sur la terre, on va tomber. On va encore échouer. La grâce de Dieu est là pour nous dire, OK, tu n'es plus ton péché. Oui, tu peux te dire, tu es misérable, OK, comme l'apôtre Paul, mais Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes à toi-même et à ta misère ou tu regardes à Jésus-Christ et à la grâce de Dieu? Et tu élèves la grâce de Dieu. Et tu reçois la grâce de Dieu. Et tu acceptes de te voir avec... Et c'est ça le corps de Christ. C'est qu'on accepte le regard et la... et l'œuvre accomplie sur notre vie et sur celle de nos frères et de nos sœurs. Et on a besoin du regard des autres pour nous encourager, parce que nous, des fois, j'aimerais vous dire qu'il y a de quoi être découragé. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette communion, cet amour fraternel pour dire non, ça, c'est la vérité. Ça c'est ce que le diable essaie de faire croire. Parce que s'il nous enlève, s'il nous vole cette œuvre accomplie, alors, mes amis... on est juste des hypocrites, où on se met des vêtements blancs pour faire croire que ça va, alors que ça ne va pas du tout. Ça ne va absolument pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Il est dit ceci, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Donc, Dieu ne veut pas qu'on pêche. D'accord ? Mais un peu plus haut, au chapitre 1, il dit, « Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. » Donc, on pêche. Et d'ailleurs, on a le sang de Christ qui nous purifie. D'accord ? Donc, écoutez bien. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ a payé pour les péchés du monde entier. OK ? Mais encore dans notre quotidien, dans notre réalité, on a besoin de quoi ? D'un avocat et du sang de Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, aujourd'hui, il intercède, il se tient entre nous et Dieu, et entre nous et nos accusateurs. Et à votre avis, qui c'est qui gagne ? C'est le procureur ou c'est l'avocat de la défense ? On est en liquidation. Et il vient, il dit, OK, c'est moi, j'ai payé. Ça suffit. Libre. Et c'est cette liberté-là que le diable veut nous voler. Et nous faire croire, non, il faut que tu payes, il faut que tu t'améliores, il faut que tu t'arranges, il faut que tu te changes. C'est interdit la grippe. Hein. Tu dis non à la grippe, on ne rentre pas ici. On ne la veut pas. Hein. Et pour terminer, un Pierre 5,10, ça fait 3 fois que je le dis, mais là, c'est la bonne. C'est le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc, pas nous, n'importe où, il nous a appelé. Et on parlera de toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et c'est ça, la vie chrétienne, c'est s'émerveiller de cette grâce et découvrir ce que Dieu nous a donné dans sa grâce, à 1 Corinthiens chapitre 2. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc j'aimerais vous dire que oui, on souffre. On est attristé de voir qu'on est encore capable de trahir notre Seigneur, de ne pas tenir nos engagements, dans un monde de péché, il y a la souffrance, c'est la conséquence. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Qui c'est qui fait le boulot ? Qui c'est qui fait l'œuvre ? Je n'ai pas dit moi, ce n'est pas moi qui me perfectionne, ce n'est pas moi qui m'affermis, ce n'est pas moi qui me fortifie, ce n'est pas moi qui me rend inébranlable. C'est lui qui le fait. Et c'est qui le fait ? C'est le Dieu de toute grâce. C'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. C'est la parole de sa grâce qui agit en moi. N'est-ce pas ? On s'arrête là. Juste prions que Dieu, qu'on grandisse dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Et qu'on s'encourage à élever la grâce de Dieu. Parce que, bon, je dirai la prochaine fois, parce que sinon je repars. Il faut qu'on s'arrête là. Mais la grâce...